France Inter.
Vous goûtez comme ça?
Oui, bien sûr.
Mmh, c'est bon. Mmh. La braderie, c'est l'île qui met brusquement à la porte sa vie quotidienne, afin que l'incroyable soit pour quelques heures le maître de la rue.
Un bon gros plat de moules, plein de légumes, de jus avec des frites.
Qui dit nouvelle édition, dit nouveau slogan, des moules, des frites, des frites qui moulent, et la fermeture des bars sera étendue le vendredi et réduite le samedi. Pas de quoi gâcher la fête pour le plus grand vide-grenier d'Europe, toujours cher dans le cœur des Lillois.
Des frites. T'aimes bien les moules, Yuno?
Oui, j'aime bien les moules.
Prends cette tête d'abruti, alors on y va.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Merci, cher public, d'être là aussi nombreux. Place du Théâtre à Lille pour notre émission en direct avec l'équipe. On est ravis d'avoir fait le voyage pour être au cœur d'un événement qui bat tous les records. La grande braderie de Lille, c'est le plus grand vide-grenier d'Europe. 2,5 millions de visiteurs pendant tout le week-end quand même. Et ils sont là pour chiner, pour festoyer et pour déguster évidemment une grande spécialité. C'est un peu le plat officiel de la grande braderie. Je veux parler évidemment des... Et ouais, les fameuses moules frites, il y en a absolument partout dans les rues de Lille. Ses origines disputées entre la France et la Belgique. Ses meilleures adresses à Lille, on va vous en donner, ça c'est promis. Sa recette parfaite, vous allez la découvrir. On vous révèle tous les secrets des moules frites avec nos trois invités du cru, à commencer par Marie-Laure Fréchet, bonjour.
Bonjour Lille, bonjour François-Régis et bonjour toute l'équipe.
Une vraie fille du Nord, vous pouvez l'applaudir. Vous nous venez d'Arras, vous êtes journaliste et autrice culinaire et vous signez un livre qui paraît ces jours-ci sur un sujet que vous connaissez absolument par cœur. Ça s'appelle « Ma frite adorée, Paris, Lille, Bruxelles sur la route des frites, carnet de recettes et d'adresses aux éditions Marabout ». On va se régaler. On peut d'ores et déjà dire que vous allez dédicacer votre livre ici cet après-midi, Marie-Laure.
Oui, au Furet du Nord, de 14h à 16h.
J'espère que vous y irez nombreux parce que c'est vraiment un livre qui vaut la peine. Édouard Chouteau, bonjour.
Bonjour à tous.
Le chef de la laiterie, même s'il est breton d'origine, mais on va lui pardonner aujourd'hui, hein. La laiterie, c'est quand même une institution à Lambersart qui a fêté ses 120 ans en 2023, c'est bien ça?
C'est ça.
Vous avez fait cet anniversaire de digne façon?
Ah oui, on a fait une belle fête, hein, comme elle mérite.
Il y avait des moules frites ou pas?
Ah non, il n'y avait pas de moules frites.
Ah, il n'y avait pas de moules frites. Alors vous cuisinez pourtant des moules frites aujourd'hui, y compris à Lambersart, hein, à la laiterie.
Une fois par an.
Une fois par an. Pendant tout le week-end, vous avez apporté tous vos condiments, vos moules, vos frites, et on va les déguster ensemble. Et vous êtes là aussi pour nous apprendre une sauce absolument extraordinaire que vous avez inventée. On n'en dit pas plus, mais notre public va la goûter, ça je peux vous le dire. Et puis enfin, Myriam Pont, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
La pêche à pied n'est pas qu'un loisir, c'est aussi un métier. C'est votre métier extraordinaire, mais fragile, depuis plus de 40 ans. On va aller avec vous à la pêche au moule.
Exactement.
On va se régaler. Ils sont du voyage pour profiter de la braderie de Lille, Elvira Masson et Jérôme Gagnès. Salut les copains.
Salut, bonjour à toutes et tous.
Bonjour à tous.
Retrouvez tous nos contenus, nos meilleures recettes, nos meilleures adresses de moules frites et nos podcasts sur franceinter.fr à la page On va déguster. On est bien à Lille, la capitale des moules frites.
France Inter, François-Régis Gaudry, On va déguster.
Des moules, des frites, des fripes qui moulent. Je veux connaître le nom de celui qui a signé ce slogan 2025. Est-ce qu'on le connaît, Marie-Laure?
Pas à ma connaissance, non.
Il est pas mal quand même, le slogan.
C'est sympa, ouais.
Alors moi, je dois vous avouer un truc, c'est que c'est ma toute première fois, et je suis pas le seul, je ne dénoncerai personne, à la braderie de Lille. Je crois que Jérôme et Elvira, vous êtes aussi dans votre baptême du feu.
On a perdu notre virginité ce week-end.
En revanche, les autres, nos invités, bah, vous connaissez évidemment la grande braderie de Lille. S'il fallait donner envie au reste de la France de venir nous rejoindre là, tout de suite, place du Théâtre à Lille pour faire la fête, pour profiter aussi du soleil lillois, qu'est-ce que l'on pourrait dire, Myriam Pont?
Écoutez, venez déguster notre terroir magnifique, nos frites, nos petites moules sauvages, et puis toutes les moules que vous pouvez trouver sur toute la côte d'Opale qui vont être vendues aujourd'hui ici. Voilà, avec des recettes qui sont faites par des chefs et plein d'amour dans la cuisine. Voilà.
Très bien, voilà une belle déclaration d'amour aux moules frites. Édouard Souteau, à part venir évidemment s'attabler à la laiterie à Lambersart.
Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut profiter, il faut faire la fête, il faut boire des bières, il faut se mêler à la foule.
Avec
modération,
bien sûr.
Sans modération,
il y a eu un problème.
Elle est partie.
Son train est tombé en panne. Donc elle n'a pas pu arriver.
C'est sûr que la modération, elle a un souci ce week-end à Lille. Ouais.
On l'a bien regretté, mais elle n'était pas là.
Elle n'est pas là. Eh bien oui, mais non, il faut profiter, il faut se mêler à la foule, il faut faire des mauvaises affaires, parce que c'est ça aussi, c'est de racheter des trucs qu'on n'avait pas besoin, d'acheter un peu d'argenterie pour agrémenter sa cuisine et voilà, faire des bonnes trouvailles.
C'est spectaculaire le monde qu'il y a dans les rues, il y a un esprit joyeux, une ambiance de fin d'été absolument incroyable. Marie-Laure Fréchet, qu'est-ce qu'il faudrait dire sur la Grande Braderie pour faire sa promotion ?
C'est quand même la manifestation phare des Hauts-de-France. Elle existe depuis 900 ans, quand même. C'est pas rien.
Et oui.
C'est un monument historique. En fait.
Absolument, parce que ses origines sont médiévales.
Exactement, oui. Alors, on estime qu'elle a débuté vers le Xe siècle. La première trace écrite, c'est le XIIe siècle.
Oui.
Et c'est surtout à la Renaissance où elle s'est développée, avec en fait la possibilité à l'époque pour les domestiques de vendre les affaires de leur maître. Voilà.
Et vous m'avez appris que le mot braderie a une étymologie tout à fait particulière.
Oui, donc on pense que ça vient du flamand braden, qui veut dire rôtir. Parce que dans les grandes fêtes populaires, évidemment, on mange. Et donc on rôtissait des volailles pendant cette grande foire.
Et des poissons aussi, il paraît ?
Des poissons aussi, probablement, oui. Mais on n'a pas de traces, malheureusement, ni de recettes.
Mais alors, la tradition qui consiste à associer ce plat mythique, incontournable, qu'on voit à tous les coins de rue à Lille pendant un week-end, les moules frites, à ce grand événement, ce grand vide-grenier, ça remonte à quand ?
Alors, c'est récent, probablement plutôt début, fin 19e, plutôt début 20e.
Mm-hmm.
On dit qu'à l'époque, il y a eu une épidémie parmi les volailles, etc. C'est pas attesté. Mais je pense que la mode vient de Belgique, en fait, parce que c'est là, à mon avis, où on a commencé à associer des frites et des moules.
Alors attendez, vous êtes en train de dire que la moule frite est une invention de nos amis belges.
Oui, il faut bien le reconnaître quand même. Ils reconnaissent que la frite est née en France, à Paris.
Oui.
Donc on peut leur attribuer le combo moule frite.
D'accord. Donc ils ont eu l'idée d'associer les frites aux moules, et on peut le comprendre parce que les frites, c'est à la fois ce qui apporte du croquant et puis en même temps, c'est un peu l'éponge à sauce, hein.
Ah oui, c'est Jérôme ça. Oui, on a dégusté des moules frites merveilleuses chez Florent Ladeigne avec une sauce aux
crevettes.
Oui, chez Crevettes.
Avec des frites maison extraordinaires et puis des moules à la livèche. La livèche étant évidemment une cousine du céleri branche qui est un aliment, un ingrédient incontournable.
Et des moules à la jeune mimolette qui était absolument délicieuse. Et effectivement, c'était un bonheur de plonger ses frites dans cette sauce à la jeune mimolette.
Elvira, ça s'est passé comment, votre braderie hier ?
Ça s'est très bien passé, mais j'ai fait un petit pas de côté. Je vous ai entraîné d'ailleurs avec moi, donc je vous ai un peu stoppé dans votre frénésie de chineur invétéré. J'espère que vous ne l'avez pas regretté.
Non, au contraire.
On s'est rendu ensemble rue Princesse dans la boutique de Hanneke et Xavier Trub, qui ont créé les planches à découper brutes. Je ne sais pas si vous les connaissez les uns les autres, elles sont magnifiques. Une gamme de planches à découper en bois massif, du chêne et du frêne essentiellement, un peu de sycomore aussi. Et elles proviennent, ces planches, enfin plutôt le bois qui sert à les confectionner, des forêts des Hauts-de-France.
Ah, c'est du super local, un travail lillois extraordinaire.
Magnifique, super local, super responsable. Elles sont taillées dans la masse, elles sont faites d'un seul morceau, gage de qualité, de solidité, de durabilité. Elles sont façonnées à la main dans un atelier d'insertion à Valenciennes et elles sont huilées à la main par Xavier Trub, qu'on a surpris en plein huilage de ses planches hier après-midi.
Qui lui aussi d'ailleurs avait un stand à la braderie.
Absolument, il bradait hier.
Il a fait 5 minutes de pause.
C'est ça.
Pour nous emmener dans son showroom avec toute sa gamme de planches à découper d'essence différente.
Qui s'appelle Pavé Lillois, vous voyez l'hommage.
Ah,
un carré, 32 par 32 cm, en frêne. Alors elle coûte 62€ cette planche, c'est une somme effectivement, c'est plus cher qu'une planche en plastique ou en contrecollé ou en bambou, je ne sais quoi, mais ça dure une vie et on ne peut pas faire plus durable. Les planches
bravo.
Brutes.
Les planches brutes du 100% local et très engagées. La grande braderie de Lille, un événement incroyable par ses dimensions. 2,5 millions de visiteurs, on l'a dit, 51 km d'étal, 5500 exposants, un marché opus qui dure 34 heures non-stop. Écoutez, moule frites, alors là, c'est tous les records sont battus aussi, puisqu'il y a 500 tonnes de moules qui sont consommées dans le week-end. 4 tonnes de coquillages de moules collectées et recyclées. Ça, c'est les grands tas de coquilles de moules que l'on voit dans des points stratégiques tout au cœur de la ville. Ça, c'est aussi une tradition, hein, Marie-Laure.
Oui, c'est une tradition entre les établissements qui aura le plus grand tas de moules, effectivement. Et donc aussi, effectivement, c'est intéressant de mentionner que ces moules, elles sont collectées. Et la ville de Lille, par exemple, vient d'installer 10 bancs qui ont été confectionnés avec des moules de la braderie.
Vous voulez connaître la recette parfaite des moules frites entre Marie-Laure et Édouard Chouteau, dont l'huile est en train de chauffer les cocottes, parce qu'il y a aussi les frites qui vont avec, au gras de bœuf, à carrément, à la belge. Il y a aussi beaucoup de Lillois qui l'aiment au gras de bœuf, évidemment.
À la flamande.
Et ben, on va goûter ça avec grand plaisir pour réaliser, préparer cette émission en direct en public de Lille. Laurent Thomas, Fabrice Rivaud, avec à la technique Vincent Cuna et Johan Foubert de Ici Nord, qu'on remercie chaleureusement, nos confrères d'Ici Nord qui accueillent France Inter. Riyad Kera depuis nos studios de Paris. Voilà. Eh bien, on se retrouve après Shy Girl de Holly Cook. Bonne braderie et bon appétit sur France Inter. Au cœur de la grande braderie de Lille, devant un public chaud comme une baraque à frites. Merci à tous d'être là. Édouard Chouteau, venez donc au micro, puisqu'on voudrait absolument que vous nous révéliez le secret d'une sauce qui vous a rendu célèbre, qui a évidemment un rapport avec notre sujet. On peut dire que le 28 septembre 2024 est à noter sur une croix blanche dans votre carrière de chef cuisinier. Vous avez participé à l'incitation de ma consoeur Marie-Laure Fréchet au championnat du monde de la frite à Arras. J'étais parrain et dans le jury d'ailleurs. Et vous avez été, attention, sacré champion du monde de la sauce froide sur les frites, l'une des catégories reines de cette compétition. Bravo. On peut le féliciter. Je vais demander à mes comparses autour de la table de goûter cette sauce et de m'en dire un mot. Myriam Pont. Alors,
c'est goûteux, c'est très bon.
Parlez au micro, Jérôme Gagnez.
C'est très très bon.
C'est très très bon, carrément. Ah ouais,
c'est la très note goûteux, ça a beaucoup de caractère.
La note maximale, et ouais, c'est diablement bon.
Acidité, du gras, de l'iode.
Ouais, ah, de l'iode, intéressant.
De la... Beaucoup de punch, comme le dit Myriam.
Ah. Ouais.
C'est, ouais, ça, on n'a qu'une envie, c'est de tremper un baquet
de frites
là-dedans. Ouais.
Et à la fin, ça nous laisse une douceur. Et du coup, je pense qu'on ne va pas pouvoir s'arrêter de manger.
Ah, cette sauce est addictive. Elle a renversé tout le jury au championnat du monde de la frite, catégorie sauce froide.
Bravo,
et Edouard Chouteau, le résultat des jeux.
Bah, on est très contents. Voilà, on s'en remet pas encore, hein, voilà, un an après. Non, mais voilà, c'est une sauce que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de caractère, qui est très punchy, qui a une longueur en bouche assez folle, en fait. Et c'est que du goût. Et voilà, c'est ce qu'on aime. Les sauces, c'est l'essence de la cuisine française. Et c'est vrai que nous, notre registre, il est très gastronomique. Mais bah, les sauces...
Il va pas nous dire ce qu'il y a dedans. Hein.
Ça se décline dans
c'est
toutes
les façons.
C'est quoi
son petit secret ? Faut balancer l'info maintenant, Edouard.
Comment je vais donner tous mes secrets en direct là.
Ah oui, oui, oui. T'es là pour ça.
Oui, c'est vrai. Non, c'est une moule marinière. Alors,
attends, une moule marinière, on a à faire plutôt une mayonnaise.
Oui, mais la base de cette sauce, c'est de décortiquer des moules. Donc voilà, c'est un petit peu fastidieux. Ça peut être aussi les moules, si vous n'avez pas tout mangé vos moules marinières pendant la braderie.
On récupère le jus.
Lundi matin, voilà, vous vous levez à l'aube et vous décortiquez minutieusement vos petites moules. Et c'est la base de ma sauce. Donc c'est une mayonnaise aux moules marinières. Donc en fait, c'est une mayonnaise qui est montée avec la chair des moules. Donc il y a un bon tiers de cette sauce où c'est des moules qui ont été passées au mixeur avec du jaune d'œuf un petit peu pour donner de l'onctuosité, de la moutarde, pour donner le côté piquant. Et après, c'est monté à l'huile d'olive. Mais c'est en fait une mayonnaise presque healthy parce qu'il y a quoi 3 cuillères à soupe d'huile d'olive juste pour amener de la fraîcheur.
Donc si je résume, on prend le reste des moules marinières dans la cocotte, on fait réduire un peu le jus pour qu'il caramélise légèrement.
Le jus, on le ramène en caramel. Vraiment, quand on croit qu'il va brûler, on l'arrête un petit peu, on le repousse une deuxième fois pour avoir vraiment en fait le côté sucré de la sauce moule.
Et ça, on peut le faire à la maison en fait. C'est même une façon de récupérer les moules froides quand on n'a pas fini la casserole.
On peut être champion du monde avec du anti-gaspi en fait.
Waouh. Oh, bravo, la bonne nouvelle, Edouard Chouteau. La recette est à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Et franchement, c'est quand même tout à fait étonnant. Et en plus, pour rappeler ce petit goût un peu herbacé et épicé du céleri, de la livèche, du céleri branche, vous faites une huile de céleri branche qui vient aussi comme ça aromatiser votre mayonnaise.
Qui va ramener un petit peu de fraîcheur. Voilà, il y a une petite pointe de vinaigre, des petites graines de moutarde. Et voilà, on essaye vraiment de ramener en fait tous les ingrédients de base qui servent à assaisonner ces moules-là dans cette sauce. Mais
wow.
En puissante.
Bravo. Marie-Laure Fréchet, vous êtes présidente de la confrérie de la frite fraîche maison. Ça, c'est du sérieux.
Exactement. Dites la grande huile.
Dites la grande huile, c'est ça. Vous allez accompagner le championnat du monde de la frite d'Arras, dont la prochaine édition va se tenir...
Le 27 septembre.
C'est
ça. Sur la grande place d'Arras, samedi 27 septembre.
Et vous signez Ma frite adorée, un carnet d'adresses et de recettes chez Marabout. C'est vraiment un livre épatant. Je ne dis pas ça parce que Marie-Laure est une amie. Mais alors, c'est du super bon boulot avec des... photos qui en plus nous restituent des atmosphères du nord de la France. Mais vous n'êtes pas resté qu'à Lille, vous êtes allé aussi à Bruxelles, vous n'êtes pas sectaire, et à Paris pour traquer la meilleure frite. Il y a évidemment une très belle recette de moules frites. Comment on pourrait la détailler en quelques phrases ?
En fait, j'ai choisi, puisque donc, les moules frites viennent de Belgique, j'ai choisi... la moule frite belge, qui donc n'est pas la marinière. La marinière, elle est en option. On la trouve aussi dans les restaurants de la côte belge. Donc, c'est vraiment la moule dans sa plus simple expression, avec quand même un petit peu condimenté, avec du céleri, de l'oignon. On peut y mettre une petite pointe d'ail.
C'est pas vraiment la marinière, parce qu'on parle...
Non, c'est pas la marinière.
Sur les cartes qu'on a vues, globalement, on a vu sur les restaurants, dans les restaurants de Lille, la marinière, la sauce au maroilles. Il y a même des moules à la crème, pour parodier nos amis normands. Et il y a aussi la sauce à l'ail. Mais alors, quand on parle de moules nature, là, c'est des oignons, du céleri branche, un peu de beurre.
Elles cuisent dans leur jus, en fait. On ne rajoute pas de vin blanc.
Très bien.
Donc, on goûte plus le goût de la moule.
Vous avez été, Marie-Laure Fréchet, dans le jury d'un concours qui a fait l'objet d'une émission diffusée hier soir sur France 3. Les audiences ont été absolument incroyables. Ça a été diffusé à 20h40 en prime time, une émission en collaboration, d'ailleurs, avec nos confrères de la radio Ici Nord. Voilà. C'était le meilleur des moules frites. On y voyait 4 restaurants, des institutions lilloises, se disputer dans les halles Oisem.
Exactement, une très belle compétition.
Le titre de meilleur moules frites de la braderie de Lille. On écoute un tout petit extrait.
Retour à la braderie. Pour recueillir le vote du public, on retrouve Clarence Fabry de la radio Ici Nord. Clarence, C'est le moment pour le public de goûter et de voter.
Moule frites, meilleure de la moule frites, messieurs, dames.
Vous, c'est quoi votre préférée?
Eh ben moi, je préfère celle-là. Je trouve qu'elles sont plus goûteuses, il y a plus d'arômes. Ouais. Très, très bonne moule. Les frites, là, sont très bonnes, mais c'est la première qu'on goûte. Alors, on attend de voir.
J'ai préféré les rouges. Au niveau du goût, de l'assaisonnement, on sent bien le goût de la moule.
Celle que je préfère le moins, c'est celle à la crème, parce que je suis pas fan de moule crème. Pour moi, c'est la basique, la marinière qui prime. Moi, j'aime bien les frites comme ça, c'est celle que j'ai toujours mangée.
Le meilleur des moules frites, à revoir en replay sur France 3. On vous a mis le lien sur le site internet de l'émission. Alors, il y avait en lice pour la meilleure moule frite de la braderie des institutions qui, de toute façon, valent la peine d'être visitées. Il y avait l'Estaminet chez la Vieille. On est rue de Gand à Lille. Il y avait à table avec 3 A, rue de Gand également, hein, c'est un voisin. Il y avait la brasserie André, incontournable, rue de Béthune, à Lille toujours bien sûr. Et la brasserie Campion, rue Le Pelletier. Et il y a eu visiblement une bataille de tous les diables. Alors on peut, puisque l'émission a été diffusée hier, on peut révéler un peu ce gagnant.
Oui, le grand gagnant, puisqu'il a fait l'unanimité du jury, c'était Benoît Bello, chez La Vieille, estaminé chez La Vieille.
Et ouais, estaminé chez La Vieille, qui est quand même vraiment, pour le coup, une valeur sûre à Lille. Hein. Avec quelle recette de moule frites?
Alors, une marinière, mais légèrement crémée, une belle garniture aromatique, et puis des frites, comme on les aime, bien croustillantes, bien taillées.
Et on avait affaire à des moules de corde de Dunkerque. Parce que je me suis interrogé évidemment hier sur la profusion de toutes ces moules que l'on déguste au cœur de l'île, mais également leur provenance. Les moules que l'on déguste, elles viennent d'où? Il y a différentes origines, j'imagine.
Oui, il y a différentes origines, un petit peu des Hauts-de-France, mais dans la mesure de la production aussi, un peu de Bouchot, et puis beaucoup aussi de Belgique, enfin de Hollande plutôt, pardon, la moule de Zélande, voilà, qui, là, avec des quantités... Donc là, la Zélande, c'est une petite province entre Anvers et Rotterdam. C'est un petit bras de mer, un terroir qui est favorable parce qu'il y a des fonds sableux et puis une eau très pure. Et avec une criée de moules, en fait, à Hirsteke. Et on en produit plus de 90 000 tonnes par an. Donc c'est énorme.
Vous êtes Marie-Laure, l'experte mondiale de la frite. Vous avez écrit « Ma frite adorée » aux éditions Marabout. Et à l'occasion de la sortie de votre livre... Là, vous avez aussi une petite surprise gourmande à nous faire déguster, puisque vous nous avez apporté une petite poudre qui est tout sauf une poudre de perlimpinpin. Alors attention, on va jouer un peu à l'aveugle. On a un chef de très haut niveau en la personne d'Edouard Chouteau. On ne dit rien de plus. Est-ce que vous pouvez goûter cette préparation et me dire de quoi il s'agit, sachant qu'il y a un ingrédient mystère, Edouard Chouteau?
Donc c'est un sel parfumé pour assaisonner... Je remets en perspective. Donc c'est un sel parfumé pour aromatiser ses frites, pour assaisonner ses frites. Et donc, il y a un ingrédient mystère. Je vous donne un indice. C'est
pas d'indice. On est très joueurs dans notre émission. Édouard Chouteau.
Il y a du fenouil, je pense. Il y a du sumac, non? Il y a un côté piquant un peu, il y a du piment.
Alors vous êtes totalement récalé, vous avez perdu votre titre de champion du monde.
Il y a presque un nez un peu de café ou de café au chicorée.
Bravo Elvira,
la chicorée, ouais.
C'est ça. Non. C'est la chicorée.
La chicorée.
Elle a plié le game, Elvira.
Café. Il y a du café.
Ah, c'est café, ouais.
Mais alors, ça se sent.
Moi je sentais, parce qu'il faut quand même dire que dans cette poudre il y a des jolis reflets de couleur brique et qu'on peut identifier quelque chose qui chauffe un peu le palais. Il y a un piment quand même.
Oui, il y a aussi du poivre et du paprika. L'idée c'était de faire un sel avec des qui rappelle un peu les saveurs des gens du Nord. Donc il y a un côté fumé, il y a de l'oignon grillé et du café.
Est-ce que vous aimez?
Moi, très bon. Oui, moi je pensais que c'était du réglisse, mais on n'est pas loin.
On n'est pas loin.
Sur des moules sauvages dont vous allez nous parler dans un instant, Myriam Pont, ça pourrait aller, ce petit sel, ou pas? Bien ou c'est sûr. Juste pour les frites?
Non, ça peut aller pour les moules, même le poisson, je pense aussi au poisson, le cabillaud, etc.
Ah, bonne
non,
idée.
Non, ça, c'est...
Sur du poisson.
C'est top.
Où est-ce qu'on peut se procurer ce sel parfumé que vous avez donc créé, Marie-Laure Fréchet?
En collaboration avec Ron Handel, dans une super maison, épices Chira, des épices soigneusement sélectionnées, sourcées et bio. Donc voilà, c'était un plaisir de faire cette collab. Le petit sel, ma frite adorée.
C'est très bon. Hein. Et c'est vraiment très bon.
Ça peut se trouver où?
Et puis Chira, donc sur le
D'accord.
site.
D'accord, et sur le site.
S-H-I-R-A.
Attendez, moi j'aimerais bien qu'on précise, c'est poivre ou piment?
Il y a du paprika et du poivre.
Il y a du paprika un peu fort, ouais. Et du poivre avec une touche de café, si j'ai bien compris.
Très bon, du sel fumé, de l'ail noir aussi.
C'est une réussite. Attention, partout où Jérôme Gagnès passe, il trépasse. Non, pardon. Ils se font dans le paysage, même si, oulala, ça a été dur. Il nous en dit plus.
On va déguster sur France Inter.
Est-ce qu'on peut dire, Jérôme Gagnès, ce que vous avez donné de votre personne ?
Ouais, j'ai donné de ma personne. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis arrivé un peu en avance, François.
Ah oui.
Je suis arrivé vendredi matin par le premier train et je me suis précipité chez Quartier Libre. Quartier Libre, c'est un énorme bar à bière qui est situé près du Fort Vauban. Et c'était Olivier de Brucker qui nous accueillait là très gentiment pour déguster un peu moins de 70 bières.
Combien ?
70.
Et vous m'avez confié quand même que déguster la bière, c'est plus compliqué que déguster le vin. Parce que je vous présente Jérôme Gagnès, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il fait en plus partie du comité de dégustateurs de la revue du vin de France. Et il déguste, en recrachant évidemment, du vin toute la journée, dans beaucoup d'appellations du Sud-Ouest et à Bordeaux.
Voilà, exactement. Donc on est plutôt habitué à faire des dégustations un peu longues, parfois un peu marathon, 150 vins par jour. Donc, mais là, les 70 bières, je les ai faites dans la matinée, entre 9h30 et 1h15. Et c'est une dégustation différente. C'était passionnant. J'ai goûté plein de très belles choses. J'ai goûté des choses qui étaient très typées, que j'ai beaucoup aimées. D'abord, je voudrais remercier quand même Pierre Marquica, qui est le président des Brasseurs des Hauts-de-France, et Olivier de Brucker, qui est donc le patron de la brasserie Louis-Lilloise et de Quartier Libre, parce qu'ils m'ont organisé cette session de dégustation. C'était à l'aveugle, c'était très bien fait. Donc j'ai tout goûté à l'aveugle, c'est très très important. Il est ressorti de cette... Donc merci beaucoup à eux, hein. Franchement, c'était vraiment très bien organisé. Il est ressorti de cette dégustation deux bières, en fait, que j'ai beaucoup aimées.
Et globalement, impression générale.
Impression générale très positive.
Et surtout qu'il ne le dit pas pour flatter son public, parce que vous connaissez son côté grande gueule.
Non, franchement, si jamais ça avait été vraiment très mauvais, je l'aurais dit. Mais à l'exception d'une ou deux bières qui étaient à peu près imbuvables, c'était très bien, c'était d'un très bon niveau. Des bières qui sont... Alors moi, ce que j'attends d'une bière, au-delà de sa dimension naturellement rafraîchissante, mais pas que, parce que vous avez des bières qui sont des bières de repas, des bières qui sont beaucoup plus puissantes et plus intenses, et qui s'accordent, par exemple, magnifiquement avec les fromages. Il ne faut jamais oublier qu'un des plus beaux accords qu'on puisse faire avec le fromage, c'est avec de la bière. Hein.
Et ça, Marie-Laure Fréchet, qui connaît aussi très bien les bières, valide cet accord. Hein.
Complètement, oui.
Ouais, c'est un mariage... je pense même, ça va peut-être choquer beaucoup de sommeliers, mais je pense même que le vrai mariage d'amour avec un certain nombre de fromages, c'est clairement la bière et pas le vin. Ça, pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis, il y avait des bières qui étaient plus légères, des bières plus rafraîchissantes. Il y avait, mais en tout cas, à chaque fois, des bières qui avaient du caractère, des bières qui avaient des belles amertumes. C'est ça qu'on recherche dans la bière, c'est l'amertume. Il faut qu'elle soit fine, il faut qu'elle soit plus ou moins présente en fonction du type de bière. Mais c'est quand même ça qu'on recherche. Donc, j'ai trouvé ce que je voulais, ce que je cherchais. J'ai trouvé
des belles bières. Ah, et en plus, c'est dans nos verres.
Et alors, vous en avez une dans votre verre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'était une des toutes premières que j'ai dégustées. Elle m'a accueilli comme ça vers 10h moins le quart.
Allez, on trinque, Elvira.
C'est une bière qui s'appelle la Lock Ale. Donc, vous aurez compris le jeu de mots. Une ale, qui est un type de bière. La Lock Ale, donc, c'est une bière locale. C'est une bière qui vient de la ferme brasserie de Wagnonville, du lycée biotech de Douai.
Ah.
C'est Audrey Bonhomme. Et David Lutin, Audrey Bonhomme, c'est la directrice d'exploitation de la ferme, et puis David Lutin, c'est le brasseur. Et ben, il est pas manchose, David Lutin, parce que c'est très bon, cette bière. Elle est, c'est une bière non filtrée, c'est une bière de fermentation haute. Vous savez, il y a deux types de bières, fermentation basse, on brasse à moins de 15 degrés, et puis fermentation haute, on brasse à 20 degrés. Là, c'est une bière de fermentation haute. C'est une blonde qui a du caractère, c'est une blonde qui a une très jolie amertume, qui est finement parfumée, élégamment parfumée, elle est houblonnée comme il faut, tout en délicatesse. Et alors la particularité de cette bière, c'est qu'elle vient d'orge qui a été maltée dans la micro-malterie de la ferme brasserie, de la ferme brassicole de ce lycée agricole. Les houblons viennent de la houblonnière du lycée, une petite houblonnière, 5 rangs, mais c'est la houblonnière du lycée. Donc tout est vraiment, vraiment local dans le lycée. Et ça donne une très jolie bière qui est rafraîchissante, que j'aurais tendance à volontiers accorder sur des moules marinières, par exemple. Et parce que je vais vous parler maintenant de la deuxième...
Mais juste une petite pause dégustation avec Marie-Laure Fréchet, qui est aussi biérologue, zytologue, on pourrait même dire. Hein. Ça, c'est le terme consacré pour désigner le spécialiste ou la spécialiste de la bière. Vous la connaissiez, cette bière ?
Je connais la brasserie de Wagonville, oui.
Et vous l'aimez, ce cru-là ?
Beaucoup de brasseurs s'y forment, oui. Effectivement, il y a une amertume très, très fine, très, très, très légère. Il faut dire aussi, donc on a parlé de l'accord frites et moules, mais, enfin, pardon, fromage et bière, mais bière et frites, ça va très bien ensemble parce que ça, l'effervescence et cette petite amertume fait passer le gras de la frite.
Est-ce qu'il est d'usage ici de cuire les moules à la bière ?
On peut le faire aussi, ça marche très bien.
Comme on le ferait pour une carbonade avec la
Exactement,
viande ?
Exactement, oui.
Très bien. Allez, deuxième bière, mon cher Jérôme.
Alors, je me la suis servie un peu de mon côté, je vous laisse... vous servir après.
On va la faire passer, mais je voudrais surtout que Marie-Laure déguste.
Là, c'est la brasserie des Trois-Monts. La brasserie des Trois-Monts, et c'est la bière saison. Alors, qu'est-ce qu'une bière saison ? Très rapidement, la bière saison, c'était en fait la bière qu'on brassait, c'est la première bière qu'on brassait avec la dernière récolte de céréales. Et en fait, elle attendait, et en fait, elle était servie, elle était bue, consommée au début de la saison agricole, parce que la bière, autrefois, était... une façon de potabiliser l'eau, et c'était essentiellement les ouvriers agricoles qui buvaient de la bière, qui se déshydrataient avec de la bière. Donc la bière saison, c'est une bière qui est bien particulière, qui est typiquement des Flandres, hein, de Flamande, et ici ça vient de la brasserie Trois-Monts.
Oui.
C'est une brasserie bien connue ici, elle est à Saint-Sylvestre. C'est une brasserie familiale qui a fêté ses 100 ans l'année dernière, ou il y a 2 ans, enfin en 2020. Et j'ai beaucoup aimé cette bière parce qu'elle est très céréale. Autant dans la première, on avait une bière qui était plus fine, enfin plus fine, disons, moins intense en termes d'arôme, avec cette petite touche houblonnée et une amertume assez fraîche. On a ici une bière avec une densité un petit peu supérieure. C'est un petit peu plus de mâche en bouche, un peu plus d'onctuosité dans la mousse qui est très crémeuse, et en même temps un caractère céréalier très assumé. C'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas oublier que la bière, c'est de la céréale quand même. C'est une sorte de pain liquide en réalité. Donc on a ici une bière qui a un très joli caractère et qui, pour autant, et ça c'est pour moi très important, c'est une dimension très importante dans la bière, elle est digeste. Il ne s'agit pas d'en boire des centaines d'hectolitres, mais un verre de bière en appelle un autre. Je veux dire par là quand même que c'est une dimension rafraîchissante.
Calmez-vous, Jérôme.
J'ai rien dit, moi, si. Non, j'ai rien dit. Et donc...
Avec modération.
Voilà.
Avec modération.
Encore ?
Non, je suis sérieux.
Vous insistez lourdement.
Non, je suis sérieux, on boit avec modération, évidemment. Même si y a des bières qui, pour le coup, ont des titrages en alcool assez
faibles.
Oui,
alors là, pour le coup, si on prend la première, elle est à 6,2.
Ah, quand même.
Si on prend celle-ci, elle est à 6,5. Non, ça reste dans des taux qui sont raisonnables. Évidemment, dès qu'on va aller vers des bières qui sont des triples, par exemple, qui ont beaucoup plus de matière, on a effectivement plus de sucre et donc plus d'alcool in fine. On peut arriver à 7, 8, parfois 9 degrés. Mais c'est pas le cas de ces bières-là. Et j'ai choisi ces bières aussi parce que c'est vraiment des bières qu'on peut mettre à table. C'est des bières qui vont... Par exemple, la saison, on avait avec nos moules à la mimolette jeune. Ça, c'est merveilleux. Voilà un très joli accord avec ce type de moule.
En termes de prix, il faut s'attendre à quoi pour ces bières locales ?
C'est 3,50 €. La bouteille de 75 centilitres, donc c'est extrêmement raisonnable.
Donc c'est une bière et c'est un alcool, un breuvage qui reste tout à fait populaire.
Ah, tout à fait, oui, c'est vraiment... Et puis c'est une très ancienne tradition. Les fermes brasseries, c'est vraiment une tradition très ancrée avec quand même une belle production locale. Franchement, c'était très enthousiasmant.
Et sur le site internet de notre émission, d'autres coups de cœur, Jérôme ?
Oui, j'ai mis quelques autres bières que j'ai beaucoup aimées dans cette dégustation. C'est mon best-of des un peu moins de 70 bières que j'ai dégustées vendredi matin.
Bonne nouvelle, voilà, comme il est sérieux, notre Jérôme Gagnès, merci beaucoup. Dans un instant, petite leçon de pêche à pied sur la Côte d'Opale avec Myriam Pont, évidemment. Mais d'abord, on va jouer. Je vous propose un tout petit medley musical concocté par notre réalisatrice, Laurane Thomas. Attention, à vous de retrouver trois interprètes. Alors, c'est pas... Il va falloir me les donner après ce medley parce que les extraits sont évidemment collés. Et la troisième va vous étonner.
On va déguster...
François-Régis
Gaudry sur France Inter.
Puis on ira manger des moules et puis des farites et puis des moules et du vin de Moselle.
Alors à quoi ça sert la frite si t'as pas les moules? Ça sert à quoi le cochonnet si t'as pas les boules?
Elle sert de simple piètre, m'apporte un pâté piètre. Elle m'a foutu les boules, moi je voulais des frites moules.
Là. Quelqu'un... Alors, le premier.
Brel.
Bravo, Jeff de Brel, 1967. La deuxième chanson.
Bachung.
Bravo, avec le titre.
Bachung.
Une année.
Au Gabi.
Une année.
80. 87.
80.
80.
Le troisième extrait.
On n'a pas.
Frites, moules, des.
Des roues.
des Non-Tropos. On l'avait oublié, ce groupe français alternatif.
Ouais. Ah ouais.
1988. Myriam Pont, vous exercez un métier très méconnu, y compris d'ailleurs localement.
Oui.
On peut le dire.
Mais je fais tout pour le faire découvrir et le, justement le, l'embellir. Et le, voilà.
Parlez bien à votre micro. Lequel est-il ?
Alors, moi, je suis une femme pêcheur à pied. Donc, j'exerce la cueillette de moules. Donc, je fais à la fois les moules, les crevettes, les coques, les bigorneaux, la salicorne. Mais je suis plus principalement dirigée vers la moule de pays.
Et ça se passe sur la côte d'Opale. Vous
Exactement.
Êtes basée à Calais.
Voilà, je vends mes moules sur le port de Calais. J'ai 43 années de pêche d'entreprise. Je suis une femme pêcheur. Je descends de Nicolas Pont, des grandes familles de pêcheurs du XVIIe siècle. Et je vous ai ramené à la fois de la petite moule de pays, cueillie à la main. Alors, on ramasse au râteau lorsqu'il y a de la pêche en plein, lorsqu'il y a la ressource le permet. Mais voilà mon outil. Une cuillère, on ramasse les moules une par une à la main.
Et ça, pour le coup, la technique n'a jamais changé. On pratiquait ce métier depuis 4 décennies, voire un peu plus.
Voilà. Et donc, autrefois, c'était les femmes qui allaient à la pêche aux moules pour nourrir les enfants. Et puis ensuite, pendant la guerre, eh ben, les femmes, elles ont continué, elles ont porté les culottes hein, sur la côte d'Opale, puisque elles ont fait le fumé, le poisson fumé, la pêche de moules, la pêche de crevettes. Elles ont, le temps que les maris étaient en mer ou en guerre, elles allaient à la pêche aux moules pour nourrir les enfants. Les Parisiens venaient acheter. Et c'est comme ça qu'on a eu, après, des petits bas de porte, parce qu'elles vendaient leurs moules au porte-à-porte. Ensuite, on a investi les ports de pêche, parce qu'il n'y avait pas encore de convention. Et maintenant, on fait les marchés. Et tout doucement, la pêche à pied se développe à travers les poissonneries. Donc nous, nous sommes les premiers pêcheurs à pied de France à avoir une boutique en ligne livrée dans toute la France. Nous sommes les premiers pêcheurs à pied de France à avoir été reconnus par le Collège culinaire de France. Nous sommes les premiers pêcheurs à pied à avoir une marque qui s'appelle la Paysanne des Mers, parce que j'ai toujours été attachée à mon métier, aux valeurs, au patrimoine. Je pense que la nature, elle mérite un travail artisanal. Mes enfants sont salariés dans l'entreprise, ainsi que mon mari.
Saluons Jean-Christian qui vous a accompagné et qui est là.
Voilà, alors il faut savoir que Jean...
Qui travaille avec vous dans cette très belle entreprise durable et locale.
Justement, c'est durable parce que tout est artisanal. Nous, on fait aussi beaucoup de séminaires où on emmène des chefs d'entreprise, des enfants malades à la pêche. Et mon fils est énormément investi, ainsi que son frère. Mais lui, il faut dire que voilà, lorsqu'il a voulu créer notre propre marque, la Paysanne des Mers, je me suis dit, mais mon petit gamin, qui veux-tu qui s'intéresse à nous? Tu te rends pas compte? Et puis il m'a dit, maman, faut pas lâcher, faut pas abandonner. Et puis il a arrêté l'école, il a voulu venir dans l'entreprise. Alors je vous avouerai, j'étais perturbée parce que moi, je veux travailler à la main, artisanalement. J'adore mon métier, j'adore les gens, le contact humain. Quand je vends mes moules, ben, j'aime aussi les gens. Voilà, je vends plein de choses. Je pense aux artisans, aux producteurs, la crème, les légumes, tout ce qui va avec. Vous voyez, donc j'englobe tout. Alors... Je vends par amour.
Myriam Pont, le métier, enfin, ou plutôt cette activité de pêche à pied a longtemps été une espèce de pratique clandestine ou de loisir. C'est devenu un vrai métier, vous avez un statut social. Vous êtes combien à exercer ce métier sur la côte d'Opale ?
On est une cinquantaine de pêcheurs sur toute la côte et dans les années 85, on s'est battu pour avoir un statut social et être reconnu. Et donc, on est aimé ça en pêche agricole.
Elle pousse où ? Où elle s'accroche où, en fait, cette moule que l'on ramasse à pied? On parle donc d'une moule de pays, mais d'une moule sauvage. C'est une moule qui n'a pas été élevée par un mytiliculteur.
Non, du tout. C'est vraiment une moule sauvage. Elle pousse sur les rochers. Et il faut savoir que la moule de pays, elle nous vient de bien avant la préhistoire. C'est un animal qui a su muter dans le temps. C'est un joyau artisanal. C'est un produit qui a une valeur ajoutée. Et moi, je me bats tous les jours au quotidien. Et d'ailleurs, je vous ai ramené ici le lit en bois du Moyen-Âge où les femmes, elles vendaient les moules. Mon premier lit en alu, j'avais 16 ans, j'en ai 58.
Là. Incroyable.
Et mon lit aujourd'hui, j'en ai 58.
Ça, c'est vraiment émouvant de vous entendre raconter votre trajectoire tout à fait singulière. Qui, autour de ce plateau, a déjà goûté de la moule sauvage?
Ben non, moi j'en ai jamais goûté.
Moi non plus.
Édouard,
idem.
Est-ce que vous seriez prêt comme ça à prendre de la moule sauvage à Myriam Pont?
Avec grand plaisir.
Vous faites des étincelles dans votre restaurant gastronomique à l'Anversart, la laiterie?
Avec grand plaisir, c'est vraiment ce qu'on cherche, c'est tout ce qu'on aime défendre. Donc ça serait un grand plaisir de travailler vos moules en amuse-bouche en plus, parce qu'on fait un petit amuse-bouche de moules frites. Donc ça serait
comment on peut définir justement, on va la goûter ensemble, alors on peut la manger crue, on peut éventuellement la faire passer à la casserole, la différence entre cette moule sauvage et la moule d'élevage de corde ou de bouchot que l'on peut acheter chez le poissonnier?
Alors, la petite moule de pays, elle a un petit goût boisé, un petit goût de noisette. Vous savez, elle a du caractère, elle a une jolie robe, elle est belle à l'intérieur, elle a cette saveur artisanale, un peu comme une bière qui est artisanale. Voilà, parce que c'est du cru, c'est du terroir. Elle filtre tous les jours, elle vit, elle a tous des oligo-éléments autour d'elle, elle a tout ce qu'il faut.
Vous disiez qu'elle était plus puissante, plus riche en nutriments, voilà. Plus riche en protéines.
Oui,
la moule sauvage, en plus, c'est exemplaire sur le plan nutritionnel.
Mais bien sûr. C'est le seul animal qui n'est pas encore vacciné, qui est aussi protéiné que la viande.
Alors, il y a quand même un petit nuage noir qui commence à se balader au-dessus de votre métier.
Oui, c'est pas facile.
C'est qu'il y a la question quand même, on s'en doute, hein, aujourd'hui, avec toutes les questions environnementales qui nous tombent sur la figure.
Le dérèglement climatique, bien sûr, et puis aussi la surpêche.
Il y a un problème écologique, ça veut dire que cette moule sauvage se raréfie ?
Alors, elle se raréfie, oui et non. Là, on a beaucoup de naissins, mais elle a du mal à pousser. Mais on a une très belle réglementation sanitaire et maritime. On est très bien encadré. Voilà. Mais il faut quand même que le citoyen qui va venir à la pêche aux moules, il faut qu'il respecte la réglementation. Et puis aussi, ben, toutes ces inondations qu'on a eues dans le Nord il y a 2 ans, ça a arraché toutes les moulières. Pour nous, ça a été très compliqué.
Alors dites-nous justement la réglementation pour ceux et celles qui auraient envie d'aller prendre un petit seau, une cuillère, d'aller sur la côte d'Opale, ramasser des moules sauvages, c'est donc possible ?
Mais bien sûr, moi je vous invite à aller sur le site des affaires maritimes du comité local des pêches qui va vous informer les gisements ouverts et fermés, la réglementation sanitaire, eh ben, il faut que vous alliez dans des gisements qui sont classés en A ou en B. Et puis la pêche, c'est à la cuillère uniquement pour les particuliers et vous avez le droit jusqu'à 5 kg de moules par personne. Et il faut que bien sûr
par
la
jour,
moule
en fait.
Par jour, par personne, et il faut que la moule fasse 4 cm.
Et vous, la réglementation pour les professionnels, c'est quelle quantité de moules que vous êtes autorisé à prélever ?
Nous, c'est beaucoup trop, on a 160 kg, on peut pas les faire. Vous voyez,
vous dites que c'est trop, il faudrait restreindre la réglementation.
Pas en ce moment. Quand il y en a en plein, je suis d'accord. Mais là, moi, je pense qu'il faut baisser parce que ça incite justement certains pêcheurs qui ne sont pas vraiment professionnels, qui sont arrivés dans le métier depuis 4 ou 5 ans. Ils vont plus avoir envie de produire parce qu'on est tous des êtres humains, on est tous des prédateurs. Mais voilà, il n'y a pas ce côté ancestral qui fait qu'il y a une préservation pour le métier, pour la ressource.
Alors, pour ceux que ça intéresse, on peut retrouver Myriam Pont dans une structure commerciale assez particulière, typique de Calais. J'ai appris le mot, je l'avoue, en préparant cette émission. Marie-Laure Fachet, ce sont les aubettes. Un petit mot sur les aubettes.
Oui, ce sont des petites cabanes où on peut en fait acheter en direct, voilà. Bon, pas du producteur, parce que c'est la mer qui produit finalement, mais des pêcheurs, quoi, en fait,
ben,
c'est
si
ça.
On est des on ramasse, on est
voilà,
des pêcheurs à pied.
Et alors, est-ce que cette moule de pays, cette moule sauvage, est un produit de luxe, ou est-ce que c'est, comme la moule d'élevage, encore un produit populaire, Myriam Pont?
Alors moi, j'essaie de trouver un équilibre parce que je pense que le travail artisanal à la main, il a une valeur. Et puis, on a beaucoup de charges à travers ce produit parce qu'il passe en bassin. Mais en même temps, il faut que ça reste pour les gens accessible. Donc, on est vraiment pas cher. On est à 4,95 € du litre. Le litre. Et il faut savoir que le litre en moule de pays fait entre 1 kg et 1,1 kg. Pourquoi ? Parce que la moule de pays, comme je vous l'ai expliqué, elle est beaucoup plus riche en protéines, sa chair est très lourde et elle est très, très, très bonne.
Donc
très lourde.
On compte en litres et pas en kilos.
Voilà, nous on sert au litre parce que vous l'aurez compris, c'est un patrimoine qu'on transmet, on veut transmettre. Puis il y a toujours la petite poignée par-dessus.
Et ça reste un prix raisonnable. Et il y a d'ailleurs l'effort derrière des pêcheurs et des pêcheuses à pied.
Et puis vous faites
qui
vivre.
Qui vont ramasser ces magnifiques produits.
Et vous faites vivre un patrimoine maritime ancestral.
Et une profession et une corporation, c'est une excellente nouvelle. Vous restez avec nous, on peut l'applaudir, mais à un pont, quel travail et quel ambassadrice du terroir, ou plutôt du miroir local. Dans un instant, bouquet final, on va déguster évidemment les fameuses moules frites signées Édouard Souteau, qui est au fourneau devant sa cocotte en fonte. Mais pour l'heure, on fait une petite pause, puisqu'on parlait à l'instant du naufrage de la mer et de ses ressources. Eh bien, on en parle justement.
On va déguster sur France Inter.
Elvira Masson, vous nous alertez par une bande dessinée.
Exactement. Myriam, vous avez employé le mot de surpêche. Alors on y reste avec un chiffre et un constat terrible. En France, les mers qui bordent nos côtes ont été vidées de 80% de leurs poissons de fond sous l'action conjointe de décennies de politiques de surpêche, de consommateurs demandant toujours plus de poissons, toujours les mêmes, à des prix moindres et d'industriels courant derrière le profit. Ce constat est le point de départ de ce livre indispensable, très dense, très riche. Il s'appelle « On a mangé la mer », une enquête au cœur de la crise de la pêche en France. C'est une bande dessinée qui est apparue chez Futuropolis. Son auteur s'appelle Maxime Delisle, c'est un ancien commandant en second sur les navires de Sea Shepherd. Il est engagé contre la pêche illégale, il a fondé une association qui s'appelle Systémique, il est coordinateur du projet IPOS, International Platform for Ocean Sustainability. Son enquête est composée d'une dizaine de chapitres pour autant d'histoires et de facettes qui composent le panorama complexe et divers de la pêche en France et des acteurs concernés, qu'ils soient industriels, pêcheurs, pêcheurs à pied, scientifiques, activistes et nous consommateurs, et qui nous montrent que la pêche est un monde très très divers. Le chalutier usine hollandais du premier chapitre n'a rien à voir avec les pêcheurs que l'on croise ailleurs.
Rien à voir avec Myriam Pont,
avec
pêcheuse à pied.
Évidemment, pêcheurs artisanaux avec lesquels on embarque dans ce livre. La grande force du bouquin, qui est vraiment très dense, c'est d'osciller entre des personnages, des scientifiques par exemple, qui nous parlent espèces, qui nous parlent plancton, vraiment très directement, des activistes qui se mobilisent, et puis des explications plus techniques sur les quotas, sur la législation européenne, la gestion des cours d'eau, les déversements des polluants agricoles, les ravages de la pêche technologique à outrance, la plus invasive, je pense à la scène démersale, une technique épouvantable qui fait l'objet d'un chapitre. Le livre n'est pas désespérant pour autant. Et je cite Maxime Delisle, « La capacité de résilience de l'océan est telle que si on n'atteint pas de seuil de non-retour, alors l'abondance et la diversité peuvent revenir en quelques années. » Il y a de très belles pages avec Isabelle Autissier qui nous raconte, à bord de son bateau, les aires marines protégées où la vie peut se régénérer en quelques années, à condition qu'elles soient réellement protégées. Aujourd'hui, 60% des aires marines seraient chalutées illégalement. Elle dit elle-même, « Le chalutage est parfois plus intense à l'intérieur qu'à l'extérieur de ces zones. » L'album évoque ainsi, par exemple, comment les baleines à bosse sont revenues à La Réunion après des années d'absence, et c'est vraiment très beau. Il y a aussi la mobilisation citoyenne, qui peut également faire reculer des projets industriels néfastes, comme par exemple...
On l'a vu, les pétitions,
oui, absolument.
Initiatives diverses.
L'abandon en 2021 d'un projet émirati de ferme-usine de saumon à Boulogne-sur-Mer, grâce à la protestation des habitants. On ressort de ce livre hyper informé, complètement secoué comme après un voyage sur une mer très agitée, mais surtout avec l'envie de voir et de faire les choses différemment. Et c'est un plaidoyer pour la pêche-écologie, qui est le pendant marin de l'agroécologie, celle que pratique Sandrine Thomas, qui est l'un des personnages du livre, sur un ligneur de 12 mètres à Concarneau, qui pêche du bar et du maigre avec peu d'hameçon à l'eau et ne prend que des poissons de grande taille et pratique l'ikejimé afin de réduire le stress du poisson. Bah, la pêche écologique, vous pratiquez, vous, dans votre métier de pêcheuse à pied, de pêcheur à pied, Myriam, et qui rejoint aussi les préoccupations d'Edouard Chouteau et de Florent Laden, chez qui on a mangé une moule frite totalement locale, responsable, durable. Bah, vous toutes et tous qui donnez raison à cette très belle phrase du livre, « La pêche, c'est des mémoires ». Des territoires habités et vivants.
Ah, bravo.
Mais oui.
Des hommes et des femmes, et c'est vraiment...
Si je peux me permettre.
Mais bien sûr.
Nous faisons partie d'un réseau qui s'appelle Mr. Goodfish. Oui. Nous sommes en partenariat. Jean-Christian fait énormément de conférences. Et Mr. Goodfish peut vous donner des idées cuisine, mais aussi, nous avons un calendrier chaque mois avec la ressource. Voilà. Il vous incite à manger ce qui est local.
Ils sont présents dans le livre.
Voilà,
aussi,
exactement. Ah ouais. Voilà, c'est une très belle équipe.
Absolument. On rappelle les références de cet album, chère Elvira.
On a mangé la mer de Maxime Delisle avec les super dessins qui créent beaucoup de proximité d'Olivier Martin chez Futuropolis.
Une enquête au cœur de la crise de la pêche en
vraiment
France.
Et effectivement, indispensable,
moi, je suis très sensible à ces dessins qui font très artisanal, avec de l'aquarelle.
Qui donne beaucoup d'humanité.
Un trait un peu crayonné, ouais, qui est vraiment très intéressant, qui effectivement rend cette réalité très humaine. Merci beaucoup pour ce coup de cœur, Elvira. Évidemment, on ne va pas se quitter, les amis, sans avoir dégusté des moules frites. Est-ce que là, vous en avez déjà eu dans le public? Ah, alors ça ne va pas tarder. On va d'abord les déguster, on est très mal poli. Et on va vous donner évidemment la parole. Est-ce que vous pouvez vous y mettre là, s'il vous plaît, Jérôme, Marie-Laure? Allez, on déguste. Il faut un commentaire de dégustation. Elles sont belles, hein. Ces frites sont absolument superbes. Édouard, il faut que vous veniez absolument au micro pour nous raconter cette recette. Et on va continuer à assurer le service, parce que oui, il est entre les fourneaux et le pupitre où il y a son micro, le pauvre Édouard.
Et puis on est rempli au restaurant ce midi aussi. Donc
et vous êtes rempli, et vraiment, merci de votre présence. Une bonne moule frite, vous diriez quoi pour la faire? Déjà, c'est une belle cocotte.
C'est ça, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'amour. On a mis beaucoup de temps avec toutes les équipes là, pour préparer ça. Mm-hmm. On en a fait à peu près 700 portions là, sur le week-end avec ce midi. Et voilà, donc on a fait des frites fraîches, maison, avec des fermes qui viennent de la ferme Bun. C'est les moules de Bouchot, parce qu'on ne se connaissait pas encore. Je ne sais pas si vous auriez pu nous produire, mais nous fournir, mais ça aurait été avec plaisir en tout cas. Et nous, c'est ce qu'on recherche. On travaille avec une vingtaine de petits producteurs au restaurant. Et là, pour le coup, c'est des moules du Mont-Saint-Michel.
Des moules du Mont-Saint-Michel, on adore les Normands. Et en plus, c'est une moule...
Elle est très bonne, elle est très goûteuse.
Et reconnue par une appellation d'origine protégée.
De beaux professionnels, la boule de Bouchot
de la baie du Mont-Saint-Michel. Voilà. C'est l'appellation exacte. Votre façon de les condimenter, de les assaisonner?
Ben, nous, on va chercher le goût. Donc, j'ouvre mes moules un petit peu d'avance au restaurant pour pouvoir vraiment faire réduire le jus aux trois quarts. Oui. Je fais de la crème réduite et je fais une énorme garniture aussi à part voilà, pour pouvoir avoir une qualité irréprochable vraiment pour tous les clients. Donc, on fait une grosse garniture avec des poireaux, du céleri branche, des échalotes, un très bon vin blanc. Et oui, on fait réduire tout ça avec une grosse mignonnette de poivre blanc et de la graine de coriandre et de la graine de fenouil. Et voilà, on a quelque chose comme ça, t'es très cuisiné. Et les frites au gras de bœuf, elles sont cuites avec une petite garniture aromatique, des échalotes ciselées, émincées, de l'ail, du thym, du sel et un vinaigre de romarin bien généreux à la fin.
Ça, c'est les trucs des chefs. Mais quand on est à la maison, Edouard, et que l'on veut faire des moules à la mode du Nord, on peut y mettre, on met directement ces moules. On fait d'abord fondre la garniture aromatique, oignon, céleri.
C'est ça.
Oui.
Il faut que la garniture elle soit cuite, croquante, encore juste verte.
D'accord.
Mais encore, voilà, avec de la texture. Et après, on balance les moules plein gaz, hein, pleine puissance.
Matière grasse, vin blanc?
Moi, je ne mets pas de matière grasse. Moi, je remets de la matière grasse à la fin.
Ouais.
Et je préfère mettre, soit si vous avez une belle huile d'olive à la maison un peu fraîche, voilà, soit un petit morceau de beurre à la fin pour émulsionner la sauce. Et moi, ce que j'aime bien faire quand même, c'est pour prendre le temps de goûter ces moules, parce que si on veut goûter ces moules, il faut les égoutter et finir la sauce en la regoutant, en rajoutant à la maison peut-être un petit peu de piment, un petit peu de sel, un peu de vinaigre, pas de sel mais un peu de vinaigre, un peu de vin blanc, voilà quoi.
Bah alors ah je vois que, ah non mais ça va, on est en train carrément de lécher les coquilles de moules,
tout va bien.
Votre petite tête-à-tête en amoureux,
on fait une Jérôme bonne équipe, Gagnès, voilà.
C'est très pénible d'être dérangé quand on déjeune, vraiment c'est très désagréable.
Ça manque de frites, on peut avoir un petit...
Ouais. Alors, et juste un petit mot sur
cette
frite,
quand même,
Edouard.
On est monté en termes de frites.
Oui, frites fraîches, taillées à la main. La ferme Bun à Cassel, fournisseur incontournable du restaurant pour nos produits laitiers. Et voilà, bien, bien dorées. On les fait deux fois et dans le gras de bœuf, voilà, au restaurant, minute.
Bah écoutez, bravo. Hein. Moi, j'ai pas le temps, je peux pas parler à la bouche pleine, malheureusement, mais elles font très envie. Vous avez gardé un peu de peau sur la pomme de terre, ça a l'air rustique.
Oui, bien sûr. Déjà, on n'a pas le temps de les éplucher en plus.
Non, mais les moules sont magnifiques, franchement.
C'est vrai?
Ah, les moules sont absolument admirables.
Et on a vraiment. On s'est donné les moyens au restaurant parce qu'on a une belle cuisine, on a un très grand fourneau et on s'est vraiment donné les moyens de faire quelque chose de très, très bonne qualité, en grande quantité. Et ça a été un vrai challenge pour les équipes. Et voilà, je les remercie aussi parce qu'au travail, on en a chié ce week-end. On n'a pas pu aller boire une bière en ville, mais on a fait un très beau travail. Et ça fait plaisir aussi de fournir autant de monde parce que c'est pas notre métier et voilà, on joue le jeu de la braderie.
Et pour ceux qui veulent, on peut encore venir à la laiterie au déjeuner.
Ouais, il y aura de la queue, hein, parce qu'on a.
Il y aura de la moule.
Il y aura de la moule. Ouais. On en a gardé un peu pour même ceux qui n'auraient pas réservé et qui voudraient attendre et qui seraient patients.
Bon, bah, je sais où je vais me retrouver moi après cette émission. J'ai encore un peu de temps à Lille, ça me fait très plaisir. Il y en a une qui se régale visiblement dans le public. Vous vous appelez comment?
Zoé.
Bonjour Zoé.
Bonjour.
Mais on se connaît, non?
On se connaît.
Oui, vous êtes déjà venu dans cette émission.
Oui.
Et alors, ces moules de signé Edouard Chouteau, moules frites?
Eh ben, elles sont parfaites, quoi. C'est les frites, c'est exactement ce qu'on veut d'une frite. C'est le gras de bœuf, c'est la croustillance parfaite. Le sel, pareil, parfait. Il y a une bonne acidité. Pareil, le céleri, au niveau des moules, on le sent vachement bien. Et je trouve que c'est assez difficile de trouver quand même des bonnes moules frites pendant la braderie, même s'il y en a partout. Et là, je pense que j'ai jamais mangé de moules aussi fraîches. Et je suis totalement d'accord avec Jérôme Gagnès, c'est délicieux. Et on s'est bien régalé.
Quand est-ce que vous devenez critique gastronomique?
Quand vous voulez.
Bah bravo, hein. Sacré commentaire de dégustation, vraiment, vraiment bravo. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Figurez-vous qu'on peut également cuisiner les moules en dessert, en sucré. Et je suis très sérieux, n'est-ce pas Elvira?
Vous avez vu ça? Vous avez vu comme c'est joli? Bon, je vous rassure, hein, ce ne sont pas des vrais moules, ce sont des moules en chocolat, c'est pas n'importe quel.
Ça fait envie, hein.
Ah ouais.
C'est joli, hein.
Des petites cassolettes avec des moules en chocolat. Et pour faire la moule, il y a une noisette au cœur de la coquille.
Exactement.
En chocolat.
Et c'est un hommage à la moule frite qui a été créée par le couple qui se cache derrière la marque Encuentro. Candice Pétour et Antoine Machy. Alors moi, je les ai rencontrés quand ils étaient aux portes de Paris, à Montreuil. Ils sont installés à Lille depuis quelques années. Leur manufacture est dans la région. Ils ont une boutique en ville et ils font un travail remarquable. On appelle ça le bean to bar, c'est-à-dire qu'ils contrôlent toute la filière, de la fève de cacao jusqu'au bonbon de chocolat et à la tablette de chocolat. Et c'est du chocolat bio, épatant, très engagé.
Et on peut les retrouver d'ailleurs sur la Grand Place. Absolument. Ils ont une boutique, ouais. Chocolat engagé et délicieux. On est obligé de se quitter, on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous. Chère Marie-Laure, nous passons la journée ensemble à Lille, car vous avez fondé, il y a pas mal d'années, Mange Libre.
Mange Libre, le prix Mange Libre, la délibération du jury demain.
Qui récompense un livre autour de la gastronomie et de l'alimentation durable.
Voilà, qui fait la promotion d'une alimentation éthique.
Et vous aurez ce palmarès dimanche prochain dans notre émission, voilà. Et bien écoutez, merci mille fois. La semaine prochaine, retour dans nos studios parisiens pour une émission entièrement consacrée aux légumineuses. On va vous raconter leur super pouvoir culinaire et nutritionnel. Merci les amis, merci Jérôme, Elvira, Myriam, Edouard, Marie-Laure. Merci cher public, à dimanche prochain. Si vous avez encore faim.